Première fois, toute cette magie de Noël et cette ambiance, Noël et cette atmosphère, cette chaleur de Noël. Et puis, il y a aussi Noël, la frénésie des achats, les cadeaux, le Père Noël, les jeux de lumière, la famille, et puis les réveillons, c'est merveilleux. Mais où est l'essentiel dans tout cela? Où est l'essentiel dans tous ces éléments festifs que l'on peut trouver aux alentours de cette merveilleuse fête de Noël? Vous savez, nous vivons à une époque où les gens sont de plus en plus dans l'ignorance par rapport à la signification des fêtes chrétiennes en général. Pourtant, ça fait partie de notre héritage culturel. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Cependant, on perd le sens de toutes ces fêtes chrétiennes. Et je posais la question à un jeune de la semaine. Et cette question, c'était la suivante. Mais qu'est-ce que ça représente Noël pour toi? Qu'est-ce que c'est Noël pour toi? Et comme il ne me donnait pas la réponse que j'attendais de sa part, je lui ai appris, je ne lui ai même pas rappelé parce qu'il l'ignorait, je lui ai appris que Noël, c'était effectivement, comme nous l'avons rappelé depuis le début de cette fête, de cette cérémonie, mais c'était la naissance, c'était le jour, le 25 décembre, c'était le jour qui commémorait la naissance de Jésus, même si il est évident qu'on est à peu près certain qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais l'essentiel n'est-il pas de nous rappeler qu'à un moment bien donné, bien précis, Jésus est né, Jésus est venu sur cette terre. Et dans la petite histoire, ce jeune m'a répondu, je pensais qu'il était né le 1er janvier, le jour de l'an. Alors ça nous fait sourire, mais c'est significatif quant à la conception, quant au sens que les gens ont de la Noël. Que représente Noël pour nous? Qu'est-ce que signifie Noël? Oui, le sens de Noël perd du terrain. Et vous le savez bien, depuis quelques années, dans les écoles, dans les milieux scolaires, on a remplacé volontiers l'appellation « vacances de Noël » par « congé d'hiver ». Et j'ai même lu récemment que certains envisageaient de changer l'appellation « sapin de Noël » pour l'appeler « arbre de fête ». Mais je ne pense pas que ça va se faire. Cependant, de plus en plus, on peut constater une réticence, voire une interdiction qui est posée quant à la possibilité d'ériger une étable ou une crèche dans un milieu public, dans un lieu public. Ça peut être sur une place, dans une gare ou dans une administration communal. Jésus, le grand oublié du 21e siècle, celui qu'on ignore, celui qu'on délaisse, celui qu'on met de côté, Jésus. Pourtant, Noël, c'est son anniversaire. Noël, c'est la commémoration, la célébration de sa venue sur la terre. Alors, on va lire trois textes qui ne sont pas très longs, dans la Bible, parole de Dieu. Et le premier texte, pour ceux qui ont une Bible, c'est malade qui est encore tombé, et se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset premier jusqu'au verset 5. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 5. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et puis, ce verset bien connu que Mehdi, d'ailleurs, a mentionné sur les petits dépliants que vous avez reçus, le verset 5 nous rappelle ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, ou Prince de paix. Et puis il y a un deuxième texte qui se trouve dans le Deuxième Testament. En Matthieu, j'ai une deuxième latte et j'espère qu'elle ne va pas tomber. Matthieu chapitre 4 et au verset 6. Non, au verset 16, pardon. Matthieu 4, verset 16. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Et puis, enfin, un dernier texte dont nous allons faire la lecture et qui se trouve un peu plus loin dans l'évangile de Jean, dans ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours le prologue de Jean, chapitre 1er, versets 6 à 12. Jean, chapitre 1er, versets 6 à 12. J'ai encore un marque-page sous forme de latte. On va le mettre là pour ne pas qu'il tombe. J'essaie aussi d'ailleurs. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jusque-là, notre lecture. Vous connaissez sans aucun doute le peintre, le célèbre peintre Rembrandt. Ce peintre qui est né aux Pays-Bas au XVIIe siècle et qui est à l'origine de nombreuses œuvres. Et parmi ces œuvres, il y en a une qu'on appelle l'Adoration des bergers. Et on voit sur cette toile relativement sombre, représentant la nuit de Noël, des visiteurs qui sont autour de l'enfant Jésus, autour du berceau. Et pour mettre en évidence le protagoniste, le personnage central, principal, pour mettre le focus sur le personnage essentiel de Noël, le peintre a utilisé ce qu'on appelle la technique du clair-obscur. Oh, il y a bien un berger qui tient une lanterne dans sa main, mais elle diffuse une lumière tellement pâle, tellement peu claire par rapport à la lumière que le peintre fait jaillir, lumière immaculée, lumière rayonnante, que le peintre fait jaillir du berceau et de Jésus, qui éclaire tout le tableau. Rembrandt semblait avoir compris qui était la véritable lumière du monde. Le premier texte que nous avons lu présente une double portée prophétique. Nous sommes tout d'abord au 8e siècle, avant Jésus-Christ, et le royaume de Juda est sous l'oppression des rois de Syrie, des rois d'Israël, et puis plus tard des Assyriens, sous l'oppression des Assyriens. Mais cependant, le prophète Ésaïe va leur annoncer une bonne nouvelle. Le prophète Ésaïe va leur annoncer que, dans un avenir proche, ils vont être libérés de cet oppresseur. Ils vont être libérés de ces ennemis qui, qui place le peuple de Juda sous l'esclavage, dans l'esclavage. Et suite à cette annonce, nous dit le prophète Ésaïe dans le texte que nous avons lu, le peuple va être dans une grande allégresse, le peuple va être dans une grande joie. Un peu semblable à celle d'un homme qui trouve un trésor, qui trouve un butin, ou encore semblable à celle d'un cultivateur qui jubile devant l'ampleur de ses récoltes. La joie. Bientôt, le joug qui pesait sur eux, le bâton, le fouet qui les frappait ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais outre cette prédiction à court terme, outre cette prophétie liée à la délivrance du peuple d'Israël, du peuple de Juda à court terme, le texte qui est là envisage aussi une autre prophétie. Une prophétie qui, elle, s'accomplira sur un plus long terme, plus tard. Et qui concerne la venue du Messie dont la lumière bannira les ténèbres. Voilà donc le contenu en essence de la deuxième prophétie à long terme que le prophète Ésaïe annonce dans ce texte d'Ésaïe 9 que nous avons lu. L'annonce prophétique de celui qui va venir, le Messie, la lumière du monde, celui qui bannira les ténèbres. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et le verset 5, toujours dans le texte d'Ésaïe 9, nous présente bien finalement les deux natures de Jésus-Christ. Il est à la fois, oui, pleinement homme, un enfant nous est né, il est né de la chair, en quelque sorte, mais ce texte, verset 5, nous présente aussi la nature divine, pleinement divine de Jésus-Christ. Jésus pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, car un Fils nous est donné. Un Fils nous est donné, le Fils éternel, le Fils venu d'en haut, le Fils envoyé du Père. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Les deux natures de Jésus-Christ mise en évidence dans ce verset 5. Où en étais-je? Ce n'est donc pas un enfant ordinaire qui va naître. Ce n'est donc pas un enfant ordinaire qui est annoncé. Et d'ailleurs, les titres que lui attribue Ésaïe un petit peu plus loin nous montrent bien que c'est la venue de Dieu lui-même dont il est question dans ce passage. Admirable conseiller, Dieu puissant, attribué au Messie, sont des titres que le prophète Ésaïe attribue dans d'autres versets de ce livre, du livre prophétique, à Dieu lui-même. L'enfant de Bethléem n'est donc pas un enfant ordinaire, un enfant comme les autres, c'est Dieu qui, ô mystère profond, est venu habiter parmi les hommes. C'est l'Emmanuel que le prophète Ésaïe mentionne au chapitre 7, verset 14. Dieu avec nous qui est venu habiter parmi les hommes, qui renonce de façon volontaire pour un temps à sa gloire céleste pour venir naître dans une humble étable. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Et cette lumière qui s'est levée et que le peuple a pu voir n'est autre que celle qui est personnifiée par l'enfant de Bethléem. Cette lumière que le peuple a pu voir, cette lumière qui s'est levée est celle qui est personnifiée par l'enfant Jésus. Jésus, la lumière du monde. Jésus, lumière de vérité, lumière d'amour, lumière de paix, lumière de bonté, lumière de miséricorde, lumière de grâce, lumière de salut. Jésus, lumière de la vie. Lumière de la vie. Et c'est cette lumière qui a jailli dans les ténèbres. Non pas les ténèbres de l'extérieur, comme ceux de la nuit à proprement parler, mais ces ténèbres dont il est parlé de façon symbolique comme étant finalement la méchanceté, l'immoralité, la malédiction, le mensonge, la haine, la mort. Ce sont dans ces ténèbres, ce sont de ces ténèbres dont Jésus est venu nous libérer. Ces ténèbres qui tiennent les hommes captifs, ces ténèbres qui tiennent les hommes malheureux, ces ténèbres qui tiennent les hommes perdus pour l'éternité, dans la mort. Oui, Jésus est venu ici sur cette terre pour nous délivrer de nos ténèbres. Il est venu pour nous délivrer de l'ombre de la mort, pour nous donner la vie et nous éclairer sur la voie de l'éternité. Jésus, lumière du monde. Jésus est venu pour chasser les ténèbres de la mort et nous apporter la lumière de la vie. C'est ça le véritable sens de Noël. Jésus qui vient éclairer nos ténèbres, chasser la nuit, chasser la mort pour nous donner la lumière de la vie. La vraie lumière ne se trouve donc pas, flûte, la vraie lumière ne se trouve donc pas derrière les vitrines ou bien sur ces guirlandes qui traversent, ces guirlandes lumineuses qui traversent les avenues, mais la véritable lumière de Noël, c'est l'enfant de Bethléem, le sauveur du monde, celui qui est venu pour nous apporter le salut et la vie. Voilà la véritable lumière de Noël. Conclusion. Ce qui est vrai pour le monde terrestre, sans lumière il n'y a pas de vie sur la terre, l'est aussi pour le monde spirituel. Sans Jésus, l'âme ne peut pas vivre. Sans Jésus, notre âme reste dans la mort. À l'époque de Jésus, beaucoup ont préféré les ténèbres. À l'époque de Jésus, beaucoup ont préféré rester dans les ténèbres plutôt que de choisir la lumière. Tout au long de l'histoire, c'est pareil. Beaucoup ont préféré rester dans les ténèbres plutôt que de s'orienter, plutôt que de se tourner vers la lumière. La lumière, nous dit un Jean que nous avons lu, était dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et depuis 2000 ans, environ, la nativité nous rappelle que la lumière, elle luit encore aujourd'hui pour chaque être humain. Elle brille encore aujourd'hui pour tous les hommes. Jésus, lumière du monde, veut encore nous apporter sa lumière, veut encore nous apporter sa délivrance, veut nous faire sortir des ténèbres pour nous donner la vie. Alors la question, et nous terminerons par là, mais c'est la suivante, qu'allons-nous choisir? Qu'allons-nous choisir? Allons-nous préférer les ténèbres de la mort? Allons-nous préférer de rester dans les ténèbres de la mort ou bien allons-nous enfin recevoir, choisir la lumière de Jésus pour avoir la vie? Qu'est-ce qu'on va choisir? Allons-nous rester dans nos ténèbres tristes, sombres, destructeurs et mortels ou bien allons-nous nous orienter vers Jésus, lumière du monde, lumière de la vie? Et Noël est là pour nous rappeler cette vérité fondamentale. Jésus est venu ici, sur cette terre, pour offrir aux êtres humains un salut, une grâce éternelle.